Amen. Dankeschön.
Venu de la Suisse, je viens justement de le mentionner. Notre frère Graf et ceux de la Suisse sont là, devant assis. Est-ce que j'aurais inaperçu quelqu'un? Est-ce que j'aurais... Je pense particulièrement au chauffeur de ce bus, de ce grand bus. Je ne veux pas ici penser seulement à ceux qui ont pris part au voyage, mais au chauffeur, à celui qui a conduit, parce que nous espérons que vraiment chacun, que tous soient saisis de la grâce de Dieu et qu'ils viennent réellement au Seigneur. Nous nous réjouissons très particulièrement que notre frère Kupfer, aujourd'hui, de nouveau, est parmi nous. Tous ceux qui l'ont appris savent qu'il est passé par des choses très difficiles, mais le Seigneur l'a maintenu parmi nous, l'a gardé parmi nous, et qu'il puisse, que le Seigneur puisse le faire comme ça avec lui encore pour toujours. Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails. Je vais le voir là, la grand-mère Strauss. Où est-ce que tu es? Te voici, que Dieu te bénisse. Ça nous réjouit quand nous pouvons saluer tous ces vieux membres de l'Assemblée. Nous avons des merveilleux souvenirs concernant des réunions bénies autrefois au sud de l'Allemagne. À Karos, c'était vraiment le début du départ, du commencement de la prédication de cette parole révélée pour ce temps dans lequel nous vivons. Nous avons des frères et sœurs aussi qui sont là pour la première fois, qui viennent de Hampton. Et nous vous saluons particulièrement parmi nous et nous vous souhaitons les bénédictions riches du Seigneur. Puis-je demander qui serait là pour la première fois? Levez courtement les mains. Qui est là aujourd'hui pour la première fois? Une sœur, puis-je demander d'où est-ce que tu viens? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et tu auras encore quelqu'un? Il vient de la Roumanie. Et tu auras encore quelqu'un? Il vient de l'Angola. De l'Angola. Oh, nous te souhaitons la bienvenue. Et nous avons ici un frère. Il vient d'où? Aude, de Ophoop. Oui. Il y a encore des miracles qui se passent. C'est le quartier voisin. C'est une distance d'un jet de pierre d'ici. Oh, que chacun soit saisi de la grâce du Seigneur et qu'il puisse faire l'expérience du salut en Christ, recevoir ce salut et venir dans la véritable foi au véritable Dieu. Ces jours doivent être pour nous des jours de bénédiction et nous espérons que nous avons apporté dans notre cœur la disposition juste devant Dieu, parce que c'est en cela que tout dépendra. Puis-je peut-être courtement donner mes salutations des frères et des sœurs de l'Indonésie, de Singapour et des Philippines. Là aussi, nous ne pourrons pas rentrer dans les détails concernant ce voyage. Dieu à son peuple partout. Dans certaines villes, ils sont moins réunis, dans d'autres ils sont plus. Nous ne regardons pas à la masse. Nous servons le Seigneur et nous apportons la parole et nous lui laissons la décision d'appeler qui il veut Et quand il le veut, je pense à notre frère de Saarbrücken qui m'a remis des salutations du Zaïr, spécialement de Kinshasa, où je suis attendu pour très bientôt. Quand nous pensons que 10 000 personnes viennent comme si simplement comme une seule personne viendrait, très facilement ils viennent se réunir. Et quand nous pensons que ici c'est tellement difficile pour réunir un groupe de personnes, et même quand ils se réunissent, ils pensent avoir fait un grand plaisir à Dieu, vraiment quelque chose de particulier, d'être venu prendre part à la réunion pour écouter la parole de Dieu. Bientôt, cela arriverait à un tel point que ce serait Dieu qui devrait nous remercier, au lieu que ce soit à nous de le faire. La disposition des croyants a aussi diminué. C'est aussi relâché. Que nous puissions revenir au point où le premier amour brûle de nouveau dans notre cœur, et tel que nous avons lu dans le psaume, entrer avec des reconnaissances dans ses parvis. Déjà remercier que nous pouvons venir prendre part à la réunion. Déjà remercier que nous pouvons écouter sa parole de Dieu, sa parole. Déjà remercier qu'il nous a révélé son plan et sa volonté pour l'heure dans laquelle nous vivons. Vraiment être reconnaissant dans notre cœur pour tout ce qu'il a fait en nous. Il y a une parole qui ne me lâche pas depuis la dernière fois en Suisse, à Zurich. Elle était dans mon cœur et j'ai l'impression qu'elle ne me lâche pas. C'est cette parole-là que Paul a adressée à son collègue dans le ministère, dans 1 Timothée, le chapitre 2, au verset 8. Et je me suis posé cette question: est-ce que le temps ne serait pas devenu assez sérieux pour que vraiment, pendant la réunion, nous puissions demander aux frères, tel que c'est écrit ici dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'était une requête dans le cœur de l'homme de Dieu, pas seulement de se croiser les mains et d'écouter, mais de lever ses mains vers Dieu, de qui toute bénédiction vient, de qui tout le salut et le secours vient, de qui tout vient. Vraiment que nous puissions, dans la prière, pendant la réunion, élever nos mains sans colère et sans doute, sans mauvaise pensée. Ça voudrait dire dans la foi parfaite, être réuni et venir devant la face du Seigneur en croyant qu'il confirmera sa parole en nous. Si en tant que frère, nous pourrions commencer à nous comporter de cette manière, ce serait pour l'Assemblée du Nouveau Testament, donc des nations, un nouveau départ, vraiment un commencement merveilleux. Que cela nous devienne pour nous une requête, un besoin dans notre cœur, un désir que nous puissions recevoir de Dieu ce qu'il nous a promis. Que aucun repart vide après la réunion. Et Alors que j'ai lu ce verset, j'ai eu cette pensée, « Oh Seigneur, que du plus petit jusqu'au plus grand, que tu puisses bénir chacun individuellement, que aucun soit laissé, mais que vraiment tous ceux qui sont venus prendre part à la réunion soient saisis par ta parole, par ta grâce, par ton Saint-Esprit, par ton esprit, et ainsi faire une expérience, que ce soit pour la première fois ou bien d'une façon nouvelle, par ta grâce qu'ils puissent faire une expérience avec toi, le Dieu vivant. Est-ce que nous voulons prendre cette parole dans notre cœur? Ici, ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, au verset 8 de 1 Timothée chapitre 2, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, ni doute. » Vraiment, dans la foi que Dieu accomplit ses promesses, dans la foi, être réunis en sachant que Dieu est présent, dans la foi, être réunis en sachant que Il marche encore au milieu des sept chandeliers d'or et qu'aujourd'hui, il s'adresse à son peuple par sa parole et qu'il confirme sa parole en ceux qui l'ont reçu dans la foi. Je voudrais vous lire quelques versets. Dans l'espérance et dans la foi que Dieu s'adressera à nous par sa parole directement. Dans Ésaïe, je voudrais lire à partir du verset 7, la deuxième partie du verset 7. Elle va avec la parole d'introduction que nous avons entendue. Ésaïe 56, la deuxième partie du verset 7. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Notre frère Rousse a déjà, dans la parole d'introduction, eu à mentionner cela, que nous venons de plusieurs peuples, de plusieurs langues, de plusieurs nations. Nous venons et nous nous réunissons ensemble. La maison de Dieu doit être une maison de prière, être appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples qui ensemble forment son peuple. Pas simplement quelque chose de mis ensemble comme cela, entre lesquels chaque peuple suit son propre Dieu, mais pour des hommes qui viennent de plusieurs peuples, de plusieurs nations, de plusieurs langues, de plusieurs tribus, selon la parole de l'Écriture, allez dans le monde et faites des disciples de tous les peuples et baptisez-les, etc., etc. Matthieu 28. Alors nous voulons aussi ici prendre cette parole au sérieux dans Ésaïe 56. Et cet endroit, c'est ce lieu dans lequel nous sommes réunis, le considérer en tant qu'une maison dans laquelle nous venons pour nous donner à la méditation de la parole de Dieu, étant réunis devant la face du Seigneur, pour l'adorer et pour écouter la parole du Seigneur. Dans la prière, l'homme parle à Dieu, l'homme s'adresse à Dieu, et dans la prédication, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Et c'est ainsi que ces deux choses doivent être présentes dans la réunion des croyants, dans l'assemblée des croyants. La parole de Dieu s'adressant à nous et notre prière montant vers Dieu. Dans Ésaïe 57, nous voulons lire le chapitre 57. Ésaïe, le chapitre 57, à partir du verset 14. C'est une parole vraiment puissante et qui s'ouvre un chemin. si seulement elle peut être reçue dans notre cœur, et que si vraiment il peut, nous pouvons laisser toute la place de notre cœur au Seigneur. Là, Ésaïe 57 au verset 14. On dira, il dira, frayez, frayez, il commandera donc, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Si dans ces jours, nous parlons du message de Dieu, alors nous pensons en disant cela, que Dieu, par sa parole, s'adresse à nous pour attirer notre attention sur les choses qui lui sont un obstacle, qui se tiennent sur le chemin, qui l'empêchent d'agir, qui ou alors doivent être mis dehors, ou alors ordonnés, rangés, d'une manière que son peuple puisse sans obstacle le servir et lui être agréable. Et c'est-à-dire dans ses voies, dans son chemin, dans sa volonté. Au verset 15, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, le verset 15, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, donc Ésaïe 57 au verset 15, et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Nous pensons là à une autre parole dans le prophète Ésaïe, le chapitre 42, et ce verset parallèle dans le Nouveau Testament. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Encore aujourd'hui, dans cette heure, il va de nouveau faire revivre sous l'écoute de sa parole, si nous nous tenons devant lui dans une position juste de notre cœur, donc dans une bonne position, disposition, une bonne disposition de notre cœur et dans la foi. Et je crois qu'il nous accorde la disposition correcte de notre cœur pour pouvoir lui permettre d'agir. Et dans le verset 16 maintenant, il y a une consolation qui nous est donnée. Nous revenons dans Ésaïe 57, le verset 16. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Est-ce que vous remarquez? Dieu ne peut pas toujours contester et se mettre en colère. Il a mis un terme à la colère et il a donné la priorité à sa grâce au lieu du droit. Au lieu du droit qu'il avait de nous juger. Au verset 17 de Ésaïe 57, maintenant nous lisons, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Ce verset a vraiment touché mon cœur, a parlé dans mon cœur. Comme si souvent de ce lieu nous avons eu à le dire, Dieu a un chemin avec son peuple. Nous allons jamais pouvoir obliger Dieu à venir sur notre propre chemin. C'est plutôt lui qui veut nous amener à le suivre sur son chemin pour que nous ne soyons pas trouvés marchant sur le chemin de notre cœur, c'est-à-dire nos propres chemins. Comment est-ce que nous pourrions, sur notre propre chemin, le chemin de notre cœur, suivre le Seigneur? Seulement dans ses voies, dans ses traces, nous pouvons le suivre. Seulement dans sa parole, nous pouvons vraiment le suivre. Toute autre chose est seulement une apparence de piété, une théorie seulement, et elle fait rater le but, manquer le but. Mais Dieu veut que nous atteignions le but. Nous voulons lire ici encore, dans Ésaïe 57, au verset 18, « J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. » Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Dieu est un Dieu miséricorde, un Dieu de grâce. Et nous n'avons plus affaire avec des châtiments. Notre châtiment est tombé sur lui pour que nous ayons la paix, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous devons le recevoir dans la foi et remercier Dieu de tout notre cœur pour cela. Vous connaissez tous ce verset dans le Nouveau Testament qui fait mention de ce verset que nous venons de lire, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Je lis seulement le verset 20 et le verset 21 maintenant de Ésaïe 57. Donc le verset 20 maintenant nous disons, « Mais les méchants sont comme la mer agitée. » Ésaïe 57, verset 20. « Qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Il y a vraiment des hommes qui n'ont pas de paix avec Dieu, et parce qu'ils n'ont pas de paix avec Dieu, ils n'ont pas la paix avec Dieu, ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes, et aussi ils n'ont pas cette paix avec les autres. Ils sont semblables à la mer agitée, telle que la parole nous le dit ici. Ils ne viennent jamais dans le repos. Ils ne peuvent pas, il nous est écrit ici, ils ne peuvent pas venir dans le repos. Et ils sont semblables à la mer agitée. Et nous savons ce que c'est que le repos. Mais bien-aimés, précieux frères et sœurs des nouvelles villes fédérales, je ne sais pas comment est-ce qu'a l'air votre partie est du lac. Je sais seulement dans quel état se trouve l'ancienne partie du côté nord du lac. Comment est-ce que tous les matins, des camions sont chargés à craquer de tout ce que la mer renvoie sur les bords, sur la rive. Celui qui a vu cela plusieurs fois dans la vie, vraiment, il s'est à s'attraper la tête. Plus d'une fois, chaque matin, des camions sont chargés à craquer parce que la mer, qui peut savoir quoi, de la caisse de jus au pneu, tout ce qui est renvoyé au bord de la mer, sur la rive, par les vagues, c'est à s'attraper la tête. Mais ici, les Saintes Écritures nous disent quelque chose. Que des hommes qui n'ont pas la paix avec Dieu, qui n'ont pas trouvé cette paix profonde avec Dieu. Ils sont semblables à la mer agitée qui soulève de la vase et de la bouffe et qui amène tout ça sur la rive. Ils sont complètement agités toujours. Que le nom du Seigneur soit loué de ce que par sa grâce nous avons trouvé la paix avec lui réellement. Nous ne sommes pas semblables à la mer agitée qui apporte de la boue et de la vase au bord, sur la rive. Nous sommes semblables à ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau, qui ont trouvé la paix avec Dieu. Et en nous, il n'y a rien d'agité. Nous avons le repos. Nous avons trouvé ce repos-là en Dieu, selon la parole de l'Écriture. Il y a un repos encore présent pour le peuple de Dieu, hébreu. Et celui qui vraiment appartient au peuple de Dieu se repose de toutes ses œuvres et se repose dans l'œuvre accomplie de Dieu qui a eu lieu en Christ sur la croix du calvaire à Golgotha. Ici, il nous est décrit dans le verset 19: je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Laissons-nous pour cela lire Éphésiens, le deuxième chapitre, parce que l'apôtre Paul mentionne ce verset ici que nous venons de lire encore une fois, et il adresse aux assemblées, il écrit aux assemblées dans Éphésiens, le chapitre 2, verset 17. Éphésiens, chapitre 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. En tant que message du salut, message bonne nouvelle, le peuple d'Israël lui tenait, était près de l'Éternel. C'était à ce peuple-là qu'appartenait l'alliance, le culte, les promesses. Nous étions sans Dieu, sans espérance, sans foi dans ce monde, loin de Dieu. Mais c'est en Christ que nous avons été rapprochés par la grâce de Dieu, que nous avons trouvé la paix avec Dieu. Nous avons reçu cette paix avec Dieu. Et ici, il est écrit dans Éphésiens 2 à partir du verset 12: souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Quelle parole merveilleuse! Et ce qui est plus précieux est que si cette parole peut devenir réalité en nous. Parfois, des croyants se disputent au sujet de petites choses et se séparent et vont des chemins différents, seulement parce qu'ils veulent avoir raison. Car d'avoir tort, pour eux, cela serait un trop grand dégât. Car ayant tort, ils ne sauraient venir à leur raison. Oh, heureux l'homme, oh, heureux le croyant, qui réellement est mort à lui-même, qui n'a rien de ce propre moi, qui veut toujours se faire voir, mais tel qu'il est écrit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et nous croyons que nous sommes arrivés dans ce temps et que nous avons reçu, nous sommes venus prendre part à ces réunions pour recevoir de Dieu la grâce et de nous montrer le chemin que nous devons suivre. Par exemple, quand nous regardons parmi des frères qui sont dans le ministère, quand il y a certaines choses qui, au moment, sont vues différemment, alors on ne doit pas toujours tout de suite prendre le bâton et commencer à se séparer. Alors on doit faire ce que Paul a dit aux Philippiens, Philippe 3 verset 15, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est ainsi que c'est écrit. Ici, il n'est pas parlé de séparation. Dieu unit son peuple. Mais je vais vous dire ce qui sépare. Ce qui sépare n'est jamais la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ce qui sépare, c'est toujours de propres doctrines, des enseignements et d'autres esprits qui se tiennent derrière ces messieurs-là, derrière, je dirais même, ces manies-là de vouloir toujours avoir raison. C'est mieux de le dire ainsi. Pour ainsi donner de la valeur à celui qui enseigne cette façon de voir les choses. Un homme qui n'est pas encore réellement mort à lui-même, il ne peut pas réellement servir justement Christ. Nous ne nous présentons pas nous-mêmes, ou alors notre enseignement, ou nos opinions. Nous annonçons Jésus-Christ en tant que le crucifié et nous prêchons toute la parole de Dieu. Et si cela arrive, que peut-être, selon la connaissance, nous ne marchons pas du même pas, alors nous devons avoir les uns avec les autres, nous devons avoir de la patience pour que Dieu puisse avec chacun individuellement recevoir ce qui lui revient de plein droit. Tel que nous avons lu ici, il nous a créé en lui. Il n'est pas seulement notre paix, il nous a fait, nous qui sommes affranchis, il nous a établis pour procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils posséderont la terre, mais pas une paix au détriment de la vérité, mais une paix avec Dieu, donc avec la vérité. Et c'est ça la chose merveilleuse. Que tout ce qui vient de Dieu nous unit avec lui et nous unit avec le peuple de Dieu profondément. Tout ce qui sépare et dérange a de toutes les manières d'autres motifs. Avec cette alliance que Dieu voulait faire avec nous et a faite avec nous, nous voulons lire ici que c'était une alliance de paix. Vous allez voir, c'est dans Ésaïe, le chapitre 54 au verset 10. Et oui, au verset 10, oui. Ésaïe 54 au verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Pas seulement une alliance, mais une alliance de paix, telle que Paul l'adresse à l'assemblée de Rome. Il dit, c'est ainsi que nous avons paix, que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En relation avec cela, il y a encore cette parole merveilleuse dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 7. Hébreux, du chapitre 7. Ici, il nous est représenté devant nos yeux que par le sacrifice, par ce sacrifice unique, une fois pour toutes, nous aussi, nous avons déjà été amenés dans la perfection. Nous avons déjà été perfectionnés. Nous pourrions ici lire tout le chapitre, mais je voudrais lire à partir du verset 26 seulement. Hébreux 7 au verset 26. Il nous convenait, nous avons déjà été accomplis donc, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et maintenant, il est tiré cette comparaison merveilleuse entre lui, le grand sacrificateur, qui est saint, sans faute, innocent, sans tache, et entre ceux qui sont établis dans le ministère ici sur terre. Soyez attentifs. Le verset 27. Qui n'a point besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur, donc Hébreux 7 au verset 28 maintenant, des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Quelle parole merveilleuse! Et ici aussi, nous n'allons pas nous approfondir plus ou bien nous arrêter sur ce verset, mais que cela soit dit clairement et assez fort. Celui qui aujourd'hui cherche des serviteurs de Dieu qui sont irréprochables et infaillibles, il va sûrement en mourir. Il va mourir sans les avoir trouvés. Mais celui qui cherche des serviteurs de Dieu qui ont porté la parole, qui, elle, est infaillible, ils vont les trouver. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous avez vu la différence ou bien est-ce que nous dormons déjà? Est-ce qu'il y en a certains qui dorment déjà? Veillons les uns sur les autres. Ça aussi, c'est écrit. Hébreux 10 au verset 24. Écrit, oui. Pour que personne ne s'endorme sous l'écoute de la parole de Dieu. Mais c'est vraiment nécessaire de comprendre. Les hommes cherchent de la perfection dans ceux qui leur apportent la parole de Dieu. Ils ne regardent pas au-delà du voile en tant que ce corps. Il ne regarde pas à la parole infaillible, parfaite de notre Dieu. Vous voyez, qui est apportée. Et c'est à cause de ça que ici, cette comparaison nous est faite et nous est donnée. Les souverains sacrificateurs avaient eux-mêmes besoin d'apporter pour des sacrifices pour leur propre péché et pour le péché du peuple. Mais alors est venu celui qui est parfait, qui est né d'une vierge, qui était sans tache. L'ennemi n'avait aucun droit sur lui. C'était parce que seulement il avait porté nos fautes sur lui pour à cause de nous ôter l'aiguillon de la mort. C'est à cause de ça qu'il est venu dans ce corps corruptible, mais dans ce corps mortel, mais il n'avait pas de faute. Nos fautes ont été mises sur lui pour que nous ayons la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons été guéris, tel que nous l'avons lu ici. En effet, la loi au verset 28 établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Et ici, je ne viole pas la parole de Dieu. Si aujourd'hui dans ce lieu je dis que tous les fils et les filles de Dieu en lui, le Fils de Dieu, ils étaient en lui et ils seront en lui et ils sont en lui et en lui ils ont déjà reçu la garantie de la perfection divine. C'est vraiment seulement un temps et une question de temps. Il n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais quand ce sera manifesté, quand ce sera révélé, nous lui serons semblables. C'est à cause de ça que nous voulons prêcher le plein évangile. Oui, vous savez, tel que par le ministère du frère Branham, le message de Dieu fut placé nouvellement sur le chandelier, la parole de Dieu. Et c'est ici, en Europe et pour la moitié du monde, qu'il a pris son commencement après le retour à la maison du frère Branham. Ce n'était pas notre décision, notre choix, c'était le choix et la décision de Dieu. Mais, de la même manière, nous pouvons le dire et rendre ce témoignage. Nous avons annoncé tout le conseil de Dieu. Nous n'avons pas mentionné Paul ou bien prêché Paul ou bien Pierre ou bien Branham. Nous avons prêché et annoncé la parole de Dieu et nous avons, là où il convenait de le faire, nous avons mentionné les serviteurs, les hommes de Dieu que Dieu a utilisés. Et nous sommes reconnaissants pour chacun que Dieu a pu utiliser, qu'il pouvait envoyer et qu'il pouvait bénir. Mais laissez-moi, dans cette connexion des choses, dire cela. Nous pourrions aujourd'hui, comme beaucoup de tous ces théologues, dans ces plus de 300 différentes communautés se disant chrétiennes, nous pourrions nous dire de Paul, nous dire de Pierre, nous déclarer des évangiles et exactement être soi-même à côté de ce que contiennent les évangiles, ce que ces hommes-là de Dieu ont dit et écrit et donné à tout cela sa propre interprétation. De la même manière, nous pouvons aussi, et cela ne se passe pas rarement, c'est très souvent, nous pouvons nous dire de frère Branham, nous pouvons nous dire de ce message et nous décorer de ces citations d'en bas jusqu'en haut qu'on ne verrait même pas notre costume d'une manière qu'on ne voie qu'on voie seulement les citations les plus merveilleuses d'expressions qui sortirent de sa bouche, de droite et de gauche, que nous verrions seulement cela. Et ça aussi, ce ne serait pas une preuve que toute cette chose avec laquelle je me décore est devenue dans mon cœur une révélation vivante venant de Dieu. La chose pour laquelle il s'agit aujourd'hui, il ne s'agit pas de répéter certaines choses que le prophète aurait dit, mais par l'Esprit de Dieu, d'être conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. Et ici, dans ce lieu, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, venir dans ce repos qui est en Dieu, d'être ancré dans l'absolu de sa parole. Et alors aucune tempête ne pourra nous emporter parce que nous avons fondé et édifié notre maison spirituelle sur le rocher, sur la véritable révélation de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, nous remercions le Seigneur et je me tiens là en première ligne en tant que le premier pour remercier le Seigneur de tout mon cœur pour l'envoi de son serviteur le prophète. Quand je pense à ce que nous n'aurions pas pu avoir toute cette vue d'ensemble prophétique et savoir comment est-ce que les choses sont liées ensemble, comment est-ce qu'elles se suivent, nous aurions, comme tous les autres, manqué le but. Si Dieu n'avait pas adressé à nous, dans cette génération, un message prophétique de sa parole, dans sa parole, qui est venu de sa parole. Et nous avons aussi compris cela, que c'est un message de Dieu. Et c'est à cause de ça qu'il doit être dans la parole de Dieu. S'il n'est pas dans la parole de Dieu, alors ce n'est pas un message de Dieu. Et c'est ainsi que nous croyons que les hommes de Dieu étaient envoyés, ils étaient poussés par le Saint-Esprit, et c'est étant poussés qu'ils ont prêché la parole de Dieu. Je pense toujours volontairement à cette expérience que frère Branham a eue, cette prédication qu'il a donnée aussi sous le titre derrière le rideau du temps, alors qu'il vit cette troupe dont il ne pouvait en compter le nombre, habillée en blanc dans la gloire, et il lui a été dit: devant cette troupe tu seras jugé. Et il a posé la question: est-ce que Paul aussi seront jugés devant ceux à qui il a prêché la parole de Dieu? Et la voix lui a dit: oui, lui aussi sera jugé. Et alors frère Branham a dit: j'ai prêché la même chose que Paul a prêché, et j'ai baptisé comme il a baptisé, et s'il se tiendra avec les siens devant le jugement, moi aussi je me tiendrai avec les miens devant le jugement de Dieu. Et alors qu'il disait cela, comme d'une seule bouche, cette troupe qui compte des millions a dit: c'est en cela que nous nous reposons. Nous ne suivons pas des fables habilement conçues, mais nous vous en avons prêché vraiment d'une manière pure la parole prophétique, la parole de l'enseignement et celle de l'évangélisation, d'une manière que chaque homme qui aujourd'hui veut devenir croyant, donc veut vraiment croire, a la possibilité de le faire encore aujourd'hui. Et je pensais de cette manière à Paul. Quand il arrivait dans un endroit, il a toujours eu deux questions à poser. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela déjà, mais quand il arrivait dans un certain endroit, la manière avec laquelle les gens avaient été baptisés et la question de savoir est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, cela ne lui était pas indifférent. Il voulait le savoir. Et je voudrais vous le lire. Nous croyons que l'évangile, encore aujourd'hui, produit le même effet. pour laquelle Dieu l'envoie. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous pouvons faire nos expériences avec Dieu. Oui, nous devons même le faire. Et nous avons la grâce de le faire, tel que les croyants dans l'église primitive. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, ici, je vais le lire. Je vais lire ce verset dans la traduction Darby, au verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2. Et le verset 6, nous lirons aussi après. Donc seulement le verset 2 dans la traduction Darby. Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Après avoir cru. C'était une nouvelle terre, un nouveau sol, une nouvelle ville. Il n'avait jamais rencontré les croyants auparavant dans sa vie. Il faisait un voyage, il arrive dans cette ville à Éphèse et il rencontre là 12 hommes, il va vers eux et la première question qu'il a adressée à ces jeunes croyants était « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru ?» Après. Vous savez comment est-ce que la réponse a été de ces croyants? Mais il n'a pas seulement posé une seule question. Il a posé aussi comment est-ce qu'ils ont été baptisés. Je crois que c'est très, très important. Et nous le lisons ici dans le verset, peut-être directement au verset 3, nous pouvons lire aussi au verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, et chacun de nous connaît la réponse. Deux questions et deux réponses. Si aujourd'hui, nous avons la même forme de prédication que l'église primitive, alors les mêmes questions doivent pouvoir être posées. Si Paul aujourd'hui venait pour la première fois dans notre pays, ou bien parmi nous, qu'est-ce qu'il ferait? Quelle sera sa question? Ou bien ses questions au pluriel? Et je le dis aussi, pourquoi est-ce qu'il a posé cela de cette manière? Il voulait être certain qu'il ne prêchait pas en vain. Il voulait être sûr qu'il s'y se trouve des hommes qui marchent, qui vont dans la ligne biblique, qui ont fait une expérience avec Dieu et qui ont fait le pas que font ceux qui ont cru, c'est-à-dire de se laisser baptiser. Et il y a ce verset là, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, dans la prédication de la Pentecôte, ici, au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ici, ça confirme cela encore. Et Paul, parce qu'il savait déjà comment est-ce que le commandement lié à la promesse avait été donné dans sa forme primitive, il pouvait en conséquence poser la question telle qu'il l'a fait. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et la deuxième question a été, comment donc avez-vous été baptisé? Les deux choses doivent être présentes et elles doivent s'être accomplies déjà dans notre vie. Le baptême d'eau et le baptême d'esprit le baptême d'esprit et le baptême d'eau, les deux s'appartiennent ensemble. L'une est le oui et l'amen de l'homme adressé à Dieu, exprimant ainsi de son côté qu'il confirme l'alliance que Dieu a faite en se laissant ensevelir avec Christ dans le baptême d'eau et qu'il ressuscite pour vivre une nouvelle vie. Et la deuxième, c'est la réponse de Dieu. Ceci est mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui mon âme trouve son plaisir. Si l'esprit peut descendre sur l'homme et demeurer sur lui, reposer sur lui, s'il peut demeurer sur notre Seigneur en tant que fils, l'esprit aussi est descendu et a demeuré sur lui, est resté sur lui. Et la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon bien-aimé fils, en qui mon âme trouve son plaisir. Les deux choses dans un seul verset. Repentez-vous et laissez-vous baptiser. Et soyez baptisés au nom de Saint-Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. De la même manière, nous le voyons aussi dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. Hein. Vous voulez, oui, que nous prêchions l'évangile éternel. C'est pas vrai? Vous voulez que la vérité de la parole de Dieu soit prêchée telle qu'elle a été prononcée par de saints hommes, poussés par le Saint-Esprit, des choses qui ont été laissées, qui nous ont été laissées sous forme écrite. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 12, nous voulons lire. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Est-ce que vous remarquez ici, il nous est même dit que ce n'est pas seulement que l'évangile a été prêché, mais que il est parlé ici aussi du nom de Jésus-Christ. Tel que dans l'église primitive autrefois, le nom de Jésus-Christ jouait un rôle particulier dans la prédication, c'est la même chose encore aujourd'hui, dans ces jours, d'une façon nouvelle. Pas une forme, pas des titres, mais ce nom qui est au-dessus de tout nom, et c'est à cause de ça que c'est dans ce nom-là que nous avons à baptiser. Dans le verset 14, nous voulons encore lire, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçoivent, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici, je voudrais préciser cela. Ici, il n'est pas parlé d'un mouvement charismatique auquel on prend part. Et cela ne s'est pas passé, il n'y a pas moins de 24 heures. C'était hier, il n'y a pas plus de 24 heures, c'était hier dans ma voiture. J'avais un entretien avec un monsieur là d'un mouvement charismatique. Et il disait, Monsieur Franck, J'ai pris part à une assemblée, à une réunion, et j'ai vu, j'ai été spectateur de ce qui se passait, et j'ai dit, Seigneur, si ça te plaît, je ferai aussi comme ils font, je prendrai part enfin au mouvement. Et il a dit, j'ai pris part à la réunion, mais vraiment expérimenter quelque chose, reçu quelque chose, vraiment j'ai rien reçu, j'ai pas fait d'expérience personnelle dans mon âme. Et je me suis dit, c'est la première fois dans ma vie que je rencontre un homme gentil, un homme sincère, qui me dit les choses telles qu'elles sont. Il dit qu'il a pris part à la réunion, un mouvement charismatique. Il a parlé en langue avec eux dans d'autres langues. Il a chanté dans une autre langue, etc., dans les différentes langues. Et mais il a dit de faire une expérience. Vraiment, en prenant part avec eux, vraiment, j'en ai fait aucune. Et ici, ce n'est pas de ça que les apôtres parlaient. Et si dans ce lieu, nous prêchons la parole de Dieu, alors nous avons le droit aux expériences vraies que le Seigneur nous a préparées et nous a données dans sa parole. Parce qu'en Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Et celui qui fait une expérience avec Dieu, il ne prend pas part seulement à un mouvement, mais en lui s'ouvre une source d'eau, telle que le Seigneur a dit, quand l'esprit que je vous ai promis viendra sur vous, quelque chose s'ouvrira. Et cette source jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Alors, Paul savait très exactement pourquoi est-ce que vraiment, allant droit au but, il avait posé ces deux questions. Je vous le lis encore dans Actes, le chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, parce que ici nous avons de choses pareilles dans Actes 10, le verset 44. Peut-être seulement le verset 44 de Actes des Apôtres, chapitre 10, et aussi le verset 48. Ici, il est écrit dans le verset 44, comme Pierre, pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sans que maintenant je regarde dans la Bible, quelle expression est-ce que Pierre a fait alors que l'Esprit est descendu? Alors que l'Esprit descendit, l'expression la plus importante de toute sa prédication, il parlait du pardon, il parlait de la résurrection, il parlait des témoins élus auparavant et de ce qui s'était passé. Et au verset 43, en ce qui concerne notre Seigneur, il est écrit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors que cette phrase-là est venue dans l'oreille de ces hommes-là qui écoutaient la parole, a pénétré dans leurs oreilles, alors cela a eu lieu pour eux. Le pardon des péchés. Cela s'est accompli pour eux par la foi en son nom. Ça, c'était la chose qui les touchait. Et en eux, quelque chose s'est ouvert, cette source qui jaillit. Parce qu'ils ont cru que Christ était le Messie, était le Ouin, et qu'en lui, la question de la faute, de nos fautes et de nos péchés ont été éclaircies et résolues une fois pour toutes. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Par son nom, la porte était ouverte. Le ciel est descendu ici sur cette terre. Dieu confirma sa parole en ceux qui avaient dans la foi reçu, accepté, cru cette parole de Pierre, sa prédication, ils ont reçu réellement le pardon de leurs péchés. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient la paix avec Dieu. Ils voulaient cette communion, la liaison, cette vie avec Dieu. Et c'est ici, cette prédication leur a accordé cela. Et pendant la prédication, cela a été atteint par chacun d'eux et par chacun d'eux. Et alors que le point culminant avait été atteint, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutèrent. Mais bien aimé, qu'aujourd'hui encore, cela puisse avoir lieu de nouveau. Que vraiment, nous puissions être des gens qui écoutent attentivement pour pouvoir faire ces expériences-là avec Dieu, pour que quelque chose en nous puisse jaillir, puisse s'ouvrir, cette source, que l'effet de la parole puisse être produit en nous, sous le coup de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu vide. Dans le verset 48, il est écrit, « Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. » Ça, c'est le modèle apostolique. Et nous croyons que nous devons revenir à l'original, à l'état primitif. Pas seulement nous allons revenir, nous devons revenir. Il n'y a pas de perfectionnement, d'accomplissement de l'assemblée de l'épouse de Christ, de Jésus-Christ, si ce n'est qu'elle soit revenue à cet état primitif, à l'état original, à ce modèle apostolique, avant le retour de Jésus-Christ, dans l'état dans lequel l'Église primitive était. Et je voudrais ici, sans violer la parole de Dieu, dire que nous pouvons nous attendre à une mesure double du vêtement de la puissance d'en haut, d'être revêtu vraiment de la puissance d'en haut, à une mesure double de cela. Et parce que le devoir dans lequel, le devoir que nous avons à remplir, celui en face duquel nous avons été placés, est sûrement plus grand et plus volumineux et va beaucoup plus loin dans le monde entier que cela était autrefois. Que ces paroles puissent servir à cela, à nous permettre d'accomplir ce devoir et qu'elles puissent toucher nos cœurs et être reçues dans notre cœur et dire, Seigneur, si l'apôtre Paul était appelé aujourd'hui parmi nous pour nous parler, pour nous prêcher ta parole et que c'était sa première occasion d'adresser ta parole à nous, de nous adresser ta parole, qu'est-ce qu'il poserait comme question? Qu'est-ce qu'il dirait? Et aujourd'hui, nous n'avons pas affaire à Paul, à Pierre ou bien avec frère Branham. Aujourd'hui, nous avons affaire au Seigneur lui-même, qui, tôt et tard, donc matin et soir, nous a apporté toujours cette serviteur des prophètes qui, toujours, qui donne toujours partout dans sa parole deux ou trois témoignages des expériences que les croyants ont fait. Et s'il vous plaît, ne regardons pas ce qui se passe autour de nous. Demandons à Dieu qu'en nous, quelque chose puisse se passer assis sous l'écoute, car étant assis sous l'écoute de la même sorte de prédication de la parole qu'avait l'Église primitive, les mêmes résultats doivent obligatoirement apparaître. Et mes bien-aimés, précieux frères et sœurs et amis, frère Branham était aussi, concernant ce point, le modèle. Il était l'exemple. Il était le seul, jusqu'à maintenant, qui pouvait s'appuyer sur cette parole de Jean 14, verset 12. Alors que le Seigneur disait là-bas, « Les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. » Tous les autres évangélistes ont pris le commandement de mission d'ici, de là, de partout, comme c'est écrit dans Matthieu 28. Mais il y a seulement eu un seul, unique, qui vraiment pouvait se tenir, s'appuyer sur cette parole de Jean 14, verset 12. Des plus grandes œuvres que moi, vous les ferez. Et dans cette connexion des choses, dans ce contexte des choses, frère Branham fait vraiment une expression merveilleuse. Et il dit autrefois, le Seigneur était dans son corps terrestre. Il était lié à un endroit. Dans l'endroit où il était, il ne pouvait pas en même temps être partout, au même moment. Mais maintenant, Dieu, par son esprit, dans l'assemblée, peut être partout au même moment et agir au même moment. Et c'est à cause de ça que par l'esprit, de plus grandes choses peuvent avoir lieu qu'autrefois. Parce qu'il était lié à un endroit, étant dans la chair. Mais c'est à cause de ça que nous voulons vraiment faire confiance à Dieu et le prendre à sa parole et ne pas nous rendre malades et limiter Dieu. Mais que nous puissions lui dire, Seigneur, adresse ta parole à moi. Parle-moi par ta parole. Je veux écouter comme un disciple écoute. Je veux vraiment dans tes voies, dans tes chemins, te servir, te suivre. Je veux te croire et t'obéir et d'une façon nouvelle, faire une expérience réelle avec toi. Ô Seigneur, comme il est écrit ici, frayez, préparez le chemin à l'Éternel. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, comme c'est écrit dans Isaïe 57 au verset 14, pour que la gloire du Très-Haut du Seigneur puisse être manifestée. Les méchants n'ont pas de paix. Ils sont semblables à la mer agitée. Mais ceux qui sont devenus croyants, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu et qui sont liés avec Dieu, ils ont reçu la paix avec Dieu. Ils croivent tel que l'Écriture dit, tel que c'est écrit, tel que l'Écriture dit que nous devons croire. Et ils voient la parole s'accomplir devant leurs yeux. Laissez-moi encore élever ce point. Quand Pierre, au milieu de sa prédication, a atteint le point culminant en ce qui concerne Christ, et qu'il a dit que c'est de lui que les prophètes rendent le témoignage que quiconque, pas seulement quelques-uns, mais quiconque, donc que chaque individu qui croit avant lui reçoive par son nom le pardon des péchés. Et ça a eu lieu. Quand il a prononcé cette phrase, ça a eu lieu. Ceux qui écoutaient connaissaient cette parole de l'Ancien Testament. Celui qui invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur sera sauvé. Et ici, l'heure est venue. Le moment est venu où le nom du Seigneur a été prononcé. Ce qui s'était passé à Golgotha a été prêché. Et ceux qui écoutèrent ont fait l'expérience de ce qui a été prêché et de ce que Dieu a préparé en Christ pour eux. Oh, que la même chose, par la grâce de Dieu, puisse avoir lieu avec nous aujourd'hui. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière maintenant. Peut-être que nous chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi.
Oh, wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm.
Dieu Seigneur, notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Ta parole, ton évangile, est aujourd'hui le même, ton nom, ta puissance, ton pardon, le pardon, ta parole, ton esprit, ton sang, tout est est comme c'était autrefois, a le même effet. Oh Seigneur, confirme ta parole parmi ton peuple. Tu es présent, tu es là et tu sauves, tu guéris, tu libères. C'est toi qui fais ces choses, oh Seigneur. Que tu puisses nous atteindre, nous toucher vraiment dans la profondeur de notre cœur. Que nous puissions, par ta présence, sous l'écoute de la prédication de ta parole, être touchés, être saisis d'une manière que nous faisons l'expérience de ce qui s'est passé à Golgotha, c'est-à-dire que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et que nous avons seulement besoin d'invoquer ton saint nom pour recevoir le salut et pour être sauvé. Ô Seigneur, que tu puisses toucher chaque cœur, jeune ou âgé, enfant, jeune ou vieux, Seigneur, que tu puisses nous tous ici réunis, que tu puisses nous laisser faire l'expérience de l'effet de ta parole, de ton esprit et de ton sang. Ô Seigneur, que cela soit manifesté d'une façon nouvelle dans ton assemblée et que cela puisse être le témoignage des croyants. Ô Seigneur, nous te disons merci et nous t'adorons parce que tu es fidèle. Alléluia. Dans la foi et dans la confiance, nous te remercions maintenant déjà, ensemble, de ce que tu nous as et tu nous ramènes dans cette position qu'avait l'église primitive, dans laquelle était l'église primitive avant ton retour, et que tu confirmes ta parole en nous en tant que vrai. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour le modèle de l'assemblée apostolique que tu nous as laissé. Nous te disons merci pour les actes des apôtres, pour les évangiles, pour les épîtres. Nous te disons merci aussi pour les révélations. Nous te disons merci. Nous te remercions pour l'Ancien, pour le Nouveau Testament, pour toutes ces directions, ces enseignements, ces révélations. Tout ce que tu nous montres, oh Seigneur, celui qui s'attache à ta parole ne peut pas s'égarer. Et ta parole est en tous les points une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, sur notre sentier. Nous ne consultons pas la chair et le sang. Nous ne consultons pas la chair et le sang. Ce serait un péché de le faire. Après que tu et parler avec nous par ta parole, Seigneur, nous l'observons alors et nous disons oui à cela et nous te demandons que tu puisses la confirmer dans notre vie. Qui devrait encore consulter la chair et le sang après ta façon d'avoir parlé clairement par ton esprit, par ta parole avec nous? Est-ce que nous pouvons encore vouloir nous consulter la chair et le sang? Seigneur, accorde-nous la grâce, cette grâce, que tous ces entretiens-là avec la chair et le sang puissent avoir fin et que nous puissions vraiment nous soumettre, nous mettre à ta disposition entièrement pour que tu puisses avoir vraiment de chacun de nous ce qui te revient de plein droit. Seigneur, nous voulons te remercier particulièrement pour l'envoi de ton serviteur, le prophète, qui a attiré notre attention sur toutes ces choses. Nous te disons merci. Tu fais toutes choses belles pour l'honneur et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.